Il y a 3 ans, 8 Français sur 10 croyaient à au moins une théorie complotiste. Et l'an dernier, un tiers des Français croyaient à un complot sur la prétendue nocivité des vaccins. La lutte contre le complotisme est l'un des combats les plus importants de cette décennie. Elle peut compter toutefois sur une nouvelle arme, une plateforme spécialisée lancée il y a quelques jours. Ça s'appelle Spicy Educ, Educ pour éducation. À qui s'adresse-t-elle? Que peut-on y voir? Comment travaille-t-elle? Et pour quels résultats? Bonjour Jean-Bernard Schmitt.
Bonjour.
Jean-Bernard, vous êtes le directeur général de Spicy et c'est vous qui venez de lancer cette plateforme. En une phrase, de quoi s'agit-il?
C'est une plateforme qui est dédiée, comme vous l'avez dit, à l'éducation aux médias et à la lutte contre la désinformation et son corollaire, exactement, le complotisme. L'idée, c'est de... Elle est conçue pour les enseignants, formateurs, documentalistes, etc. Et l'idée, c'est de mettre à leur disposition des ressources, vidéos, des exercices, des fiches pédagogiques, des tests, pour qu'ils puissent, en gros, exercer l'esprit critique de leurs élèves, de leurs étudiants. C'est l'esprit critique a besoin d'exercices et nous, on propose tous ces exercices, tant avec de la vidéo que des fiches pédagogiques et des tests et des questionnaires.
On voit qu'elle est au cœur de l'actualité, cette plateforme, puisque nous vous avons invité, la décision a été prise la semaine dernière, et puis vous avez vu ce week-end les images de Francis Lalanne qui invite tout le monde à s'embrasser sans masque. Réaction à ces images?
Non mais c'est vrai que c'est incroyable. Ça participe de ce mouvement, de cette idée qu'à un moment ou un autre, on nous ment. On nous ment sur la nocivité du virus, on nous ment sur la réalité des vaccins et sur leur efficacité, on nous ment sur l'intérêt ou non de porter des masques. Et c'est vrai, et c'est d'ailleurs très inquiétant, c'est lié à une autre actualité. Hein. Là, vous avez vu, effectivement, vous en avez parlé, l'agression de journalistes de France 3 dans ce petit village de l'Ardèche qui est les Vences. Il se trouve qu'on a tourné un doc qu'on a appelé le village anti-vaccin aux Vences à l'automne et qui montre, en fait, c'est une des poches dans le territoire où vraiment il y a une opposition forte, profonde à tout ce qui fait autorité sanitaire, à tout ce qui fait instruction sanitaire, quelle qu'elle soit. Et c'est toute la population qui, dans son ensemble, doute de ça. Évidemment, toute la population n'est pas violente. Hein. Là, c'est vraiment un fait très précis. Mais ça, quand on voit les images de Francis Lalanne aussi, surtout ce qui est inquiétant, c'est que non seulement il lance l'appel, ce qui est totalement irresponsable, mais les gens répondent et enlèvent les masques et s'embrassent. Ouais. Ce qui dit quand même quelque chose de l'état d'esprit de toute une partie de la population.
D'un mot, puisque vous en parlez, où est-ce qu'on peut voir ce documentaire d'Arnaud Muller, je crois?
Arnaud Muller, voilà, c'est une série qui s'appelle Toc Toc, c'est sur Spicy, hein, spicy.com, et en l'occurrence, c'est en accès gratuit en plus.
Alors, je reviens à Spicy Educ, des vidéos, quel genre de vidéos y trouve-t-on?
Alors, il y en a pour tous les goûts, si je puis dire. Il y a à la fois des documentaires entiers, des films. La majeure partie, ce sont nos films, hein, donc ça fait partie de notre patrimoine, à nous, chez Spicy. Et puis, on a fait des petits modules. Alors, on a d'abord fait des extraits, on a découpé certains de ces films en fonction de thématiques particulières. Et puis, on fait des tutoriels, on fait des petits modules explicatifs. Pourquoi? Pour s'adapter à la fois à toutes au temps dont vont disposer les formateurs, les enseignants, en se disant « Eh ben tiens, moi, cette fois, je vais faire une séance sur tel ou tel thème. » On leur propose des vidéos. Mmh. Et puis, pour s'adapter aussi au niveau des élèves, évidemment, on ne parle pas de la même manière à un collégien, à un lycéen, à un étudiant. Donc, l'idée, c'est de proposer toute une palette de formats totalement différents les uns des autres pour permettre aux enseignants de picorer, si je puis dire, de créer leur propre parcours. Et puis on propose aussi des parcours pédagogiques fléchés avec à chaque fois des vidéos, des fiches pédagogiques et des questionnaires pour valider les connaissances.
On va prendre un exemple de courte vidéo tirée du parcours consacré aux théories du complot. Il s'agit d'expliquer un terme souvent utilisé par les complotistes.
Les conspies ont leur propre langage. Pour ne pas tomber dans le piège, apprenez à le repérer.
Zone d'ombre. C'est une expression courante que l'on peut retrouver partout. Elle désigne une absence dans le récit d'un événement. Lorsque l'on raconte quelque chose, s'il y a des manques ou des points inexplorés, c'est une zone d'ombre. Dans l'univers conspie, il a une autre dimension. Ces éléments non expliqués sont amplifiés et témoigneraient d'une manipulation. Ces trous dans le récit révéleraient donc un soi-disant complot. Zone d'ombre est un terme potentiellement conspi.
Voilà pour zone d'ombre, c'est tiré d'un endroit qui s'appelle le dico des conspi. Il y a d'autres expressions dans ce dico, d'autres mots analysés, expliqués, décortiqués, à tel point vous constituez un petit dictionnaire du complotisme. Petit, parce qu'on a recensé que 7 entrées. Il y a zone d'ombre, chemtrails, false flags, réinformation, mierdia, celui-là je le connaissais, mondialiste évidemment, et version officielle. Pourquoi pas davantage? Avec ces 7-là, déjà on balise le territoire, si j'ose dire.
Alors, parce que c'est d'abord, c'est un très bon exemple, ensuite c'est le début, et donc on va augmenter, on va augmenter le nombre de mots effectivement qui sont traités. Ceux-là, c'était la base, c'est ceux qui sont le plus connus, le plus utilisés, hélas, si je puis dire. Mais c'est tout cela est censé évoluer en permanence. On est déjà en production de différents films longs, tutos, etc. Et déjà en production de d'autres formats pour expliquer les différents mots du complotisme.
Vous l'avez cité deux fois, je vous ai pas demandé d'expliciter. Qu'appelez-vous un tuto? Un tuto, parce que un tutoriel, c'est comment dévisser une bouteille de gaz. Oui. Là, c'est quoi vos tutos?
C'est-à-dire, en fait, oui, c'est, j'utilise à dessein ce terme, c'est-à-dire c'est, on va utiliser toutes les modes d'expression pour faire passer les connaissances, et c'est en mode tutoriel, donc c'est avec des explications. Alors, ça peut être sur un terme, ça peut être sur une pratique. Par exemple, on est en train de tourner une série sur vraiment comment vérifier l'info, les bonnes questions à se poser, les questions principales, se demander est-ce que c'est signé, est-ce que c'est contextualisé, est-ce que c'est sourcé, des choses comme ça. Donc, quand je dis en mode tutoriel, c'est-à-dire que c'est les bonnes pratiques qu'on apprend aux élèves ou aux étudiants pour toujours décrypter l'info et arriver à la comprendre le mieux possible.
Ce qui vient d'être dit, c'est signé, c'est contextualisé, c'est Jean-Bernard Schmitt, c'est le directeur général et cofondateur de la plateforme Spicy qui lance Spicy Educ. On continue d'en parler dans Culture Média. À tout de suite.
Eurodel.
En compagnie de Jean-Bernard Schmitt, directeur général et cofondateur de Spicy. Spicy qui lance Spicy Educ, une plateforme qui tente à lutter contre le complotisme. Au-delà des mots, au-delà des expressions, Jean-Bernard Schmitt, Spicy Educ explique aussi les mécanismes du discours complotiste. Par exemple, vous montrez les ingrédients d'une vidéo complotiste. D'ailleurs, vous en réalisez une, comme ça on voit bien parfaitement les rouages. Et puis vous expliquez pourquoi ce type de discours fonctionne aussi bien. C'est en partie à cause de notre cerveau.
Au-delà de leur côté pratique, les théories du complot actionnent les mécanismes de notre cerveau qui attisent notre curiosité. Une envie irrépressible d'avoir une réponse à nos questions, même quand c'est pas la bonne. C'est ce qu'explique très simplement le sociologue Gérald Bronner.
Il y a d'abord deux ingrédients fondamentaux. Premièrement, ça peut sembler banal, mais un effet d'implication. C'est-à-dire, il faut que l'information nous intéresse. C'est-à-dire, si le prix du beurre, je sais pas, en Australie est multiplié par 3, c'est pas vraiment une information qui nous intéresse a priori. Sauf si ça nous met dans un état d'incomplétude cognitive. Par exemple, il y a un site qui va dire « Vous ne devinerez jamais pourquoi le prix du beurre ». Alors là, effectivement, il peut y avoir un effet d'implication parce que c'est ce qu'on appelle l'incomplétude cognitive. Je vais avoir tendance à vouloir remplir le trou que l'énoncé a créé. Évidemment qu'une pandémie qui pourrait nous toucher, qui pourrait toucher nos proches, crée un effet d'implication. Il faut qu'il y ait une incertitude. Les deux ensemble, effet d'implication et incertitude, généralement mécaniquement, créent de la croyance.
Je vous résume donc. Quand on a peur et que ça nous concerne, on est tout de suite beaucoup plus réceptif au discours de ceux qui prétendent avoir une solution.
Je viens d'apprendre que le terme incomplétude cognitive, ça voulait dire en bon français putaclic. Il y a plein de sites qui font ça. Vous ne saurez jamais que la décision que le gouvernement n'ose pas vous annoncer, etc. etc. Quelle est l'idée derrière ce genre de vidéo, celui déguisé notre esprit critique, Jean-Bernard Schmitt?
Alors tout à fait, toujours, exercer notre esprit critique. Là, l'idée précise, c'est que il y a d'excellents sites, on en parle tout le temps dans la presse écrite, dans la radio, etc., qui démontent en fait les fake news. Nous, ce qu'on s'est dit, c'est on va aller plus loin, c'est autre chose, on va se dire pourquoi est-ce qu'on y croit? Pourquoi ça nous intéresse énormément. C'est toujours le même réflexe. Le problème, ce n'est pas les questions qu'on se pose. Le problème, c'est les réponses que l'on trouve. Il n'est absolument pas illégitime de douter par rapport à l'actualité, par rapport à tout ce qui nous entoure. Le monde est très inquiétant. Le problème, c'est quand on trouve les mauvaises réponses et puis surtout qu'on est entraîné à croire des choses qui sont dangereuses, fausses, etc. Donc on s'est dit, mais pourquoi est-ce qu'on y croit? Qu'est-ce qui se passe? Et tout ce qu'on explique souvent, c'est que et notre cerveau nous joue des tours. Nous sommes victimes de ce qu'on appelle de biais cognitifs. Il y en a des dizaines, ils ont été très bien identifiés, qui font qu'à un moment ou un autre, on va aller plus vers une croyance, on va se laisser aller à croire quelque chose, on va ne pas voir, ne pas suffisamment douter de ce qui nous entoure, de ce que l'on reçoit, etc. L'incomplétude cognitive, c'en est un. L'un des biais les plus connus et qui, hélas, touche tout le monde, c'est ce qu'on appelle, c'est le fameux biais de confirmation. C'est-à-dire, c'est la capacité que nous avons tous, nous en sommes tous potentiellement victimes, il ne faut surtout pas culpabiliser. Le biais de confirmation, c'est la capacité que nous avons spontanément de croire d'abord ce qui nous conforte dans nos croyances, dans ce que nous croyons. C'est-à-dire qu'on va se dire, on pourra avoir 10 infos qui vont contredire ce que l'on pense, la 11e qui va aller dans notre sens, c'est celle-là que l'on va retenir. Là, le biais de confirmation, c'est quelque chose qui, hélas, dans la lutte contre le complotisme, dans la lutte contre le mensonge, etc., est très, très, très souvent en action, d'autant plus, et on le sait, que Internet, c'est par définition un média de segmentation et de confirmation. C'est-à-dire qu'on va chercher sur Internet ce qui nous conforte dans nos opinions.
Raison pour laquelle vous adressez déjà en priorité aux collégiens et aux lycéens. Il faut que ça démarre le plus tôt possible, j'ai bien compris.
Mais bien sûr, parce que pourquoi on fait ça ? Parce que c'est d'abord très difficile de retenir et de lutter contre un mensonge qui est parti sur la toile, sur les réseaux sociaux. C'est extrêmement difficile de le rattraper, voire impossible. La deuxième chose, c'est que les jeunes sont de fait le public le plus perméable, le plus poreux, si je puis dire, à tout ce qui est mensonge et fake news. Pourquoi ? Parce que d'abord, par définition, ils ont moins de bagages culturels puisqu'ils sont plus jeunes. Et puis la deuxième chose, c'est qu'ils s'informent essentiellement sur les réseaux sociaux et sur Internet. Et c'est là que le mensonge prolifère.
Je vous interromps pour dire qu'il y a quelques jours, à l'occasion du Clémy, la semaine de la presse qui se met dans les écoles, il y avait ici une collégienne de 4e qui était toute sincère et toute intéressante et qui disait ceci, si c'est sur Google c'est que c'est vrai.
Mais bien sûr.
Et si vous tapez la Terre est plate sur Google, vous trouvez.
Mais bien sûr, mais ça c'est une chose qu'on constate avec Thomas Huchon qui a fait des centaines d'interventions dans les lycées, voire dans les collèges, c'est que les jeunes spontanément, et encore une fois on peut absolument rien leur reprocher, croient ce qu'ils voient sur Internet. Donc nous, l'idée c'est d'allumer des signaux pour leur dire attention, attention, et de leur donner les clés pour arriver à décrypter ce qu'ils voient passer sur Internet.
Alors, ces signaux, vous les allumez à destination des jeunes, mais également à destination des enseignants. Il y a des fiches pédagogiques que vous avez préparées à destination des enseignants, des éducateurs. Vous avez travaillé dans votre coin, ou vous avez travaillé de concert avec l'Éducation nationale ?
Oui, alors plusieurs choses. On a travaillé d'abord avec des enseignants. Donc, ce qui est intéressant, c'est que c'est le mariage, si je puis dire, entre le journalisme et la pédagogie. Nous, on a déjà découvert ça à travers toutes nos formations, à travers toutes nos interventions dans les classes. Donc, on a été chercher des compétences des enseignants qui nous ont indiqué comment se lier au programme scolaire et puis évidemment parler aux jeunes et aux lycéens et aux étudiants, aux lycéens et aux collégiens. Et puis l'idée c'est de fournir encore une fois aux enseignants des parcours déjà fléchés s'ils le souhaitent, et puis d'aller faire entre guillemets leur marché quand ils en ont besoin. Je vous donne un petit exemple. Il se trouve que dans les programmes scolaires, au-delà de la lutte contre les fake news, etc., notamment en spécialité géopolitique, maintenant en première, vous avez énormément de travail sur les circuits de l'information, sur l'information et la démocratie, etc. Mais nous, on propose des films pour aller approfondir, pour que les enseignants puissent approfondir avec des lycéens ces thèmes-là.
Comment on accède, question concrète, technique, comment on accède à Spicy Educ? Il faut être abonné, libre d'accès.
C'est spicy-educ.com. C'est une plateforme totalement autonome. D'ailleurs, pardon, je veux le signaler parce que c'est important. On travaille de concert avec les enseignants et aussi on a été soutenus, c'est vraiment important de le dire, par le ministère de la Culture sur cette plateforme pour la développer. Donc, faut leur rendre hommage là-dessus. Donc, spicy-educ.com, on va dessus. Et l'idée, c'est que les établissements scolaires, centres de formation, etc., puissent s'abonner pour avoir accès à toutes les ressources de façon illimitée.
J'ai pas trouvé le montant de l'abonnement, je suis allé voir, j'ai pas trouvé.
C'est tout à fait normal parce qu'on le propose sur devis en fait, en fonction évidemment du nombre d'élèves, du nombre de professeurs qui puissent avoir besoin et avoir accès aux ressources, du nombre de personnes qui in fine vont vouloir profiter de l'abonnement.
Alors Spicy Educ, c'est français, est-ce que la plateforme a vocation à être diffusée dans d'autres langues ? Est-ce que ces sujets ne concernent pas que les jeunes français, que les jeunes francophones ?
Excellente question. Alors déjà, les jeunes francophones, c'est très large. Ouais. Parce qu'il y a évidemment la France métropolitaine, le Downtown, etc. Évidemment, on a des intérêts, pour tout vous dire, notamment en Afrique, sur ces questions-là. Excellente question, parce qu'on a des contacts avec des gens à l'étranger. Pas plus tard que la semaine dernière, contact au Brésil, où ils ont, mais en lutte de façon hallucinante contre les fake news, le mensonge, etc. Et des gens qui ont dit, on n'a pas ça chez nous, ça serait génial d'avoir ça et tout. Donc l'idée, une fois que la plateforme est développée, et elle l'est, nous on sait faire des plateformes, on sait les éditer techniquement et éditorialement parlant, si je puis dire. Donc une fois que la plateforme est éditée, traduire les choses, c'est ce qu'il y a de moins compliqué. Et ce que l'on sait, c'est que les méthodes, pour les avoir un peu expérimentées à l'étranger, les méthodes, elles marchent partout.
Spicy est un média indépendant. Ce qui est difficile aujourd'hui pour un média indépendant, c'est de le rester. Est-ce que c'est votre cas, Spicy? Est-ce que c'est difficile de garder son indépendance? Est-ce que vous êtes rentable, pour dire les choses?
Eh bien, écoutez, alors, figurez-vous que nous sommes rentables depuis... l'année 2020 s'est terminée en bénéfice. Donc, nous avons atteint la rentabilité légèrement, modestement, je tiens à le dire, mais nous l'avons fait. Donc, c'est aussi un bon signe, un bon message. Ça ne veut pas dire que la lutte ne continue pas. Ça, à notre petit niveau, il faut quand même en permanence lutter. Ça veut dire trouver des nouvelles possibilités de distribution. On arrive sur toutes les boxes Orange le 7 avril, par exemple, ça. Ça veut dire que ça, pour nous, c'est un cap très important. On est, je vous en avais parlé déjà, sur Amazon Prime, on est sur Molotov, on a notre propre plateforme, on est en discussion avec plein d'opérateurs. Donc, ça veut dire accroître notre capacité de distribution et, évidemment, toujours chercher des opportunités pour réussir, notamment dans la production et à accroître notre zone de diffusion.
Merci beaucoup, Jean-Bernard Schmitt. Je rappelle que vous êtes directeur général de Spicy et l'un de ses cofondateurs. Donc, Spicy Educ en ligne depuis quelques jours. Spicy-educ.com. Merci d'avoir été avec nous.